Oui, les mots oubliés au peu employés. Et c'est avec André Lacombe, cette chronique sur les mots ce matin. André, vous commencez avec quelques verbes.
Un petit mot avant de commencer sur les verbes, pour dire que plusieurs sources ont été consultées pour réaliser cette chronique. Notamment, il y a toujours l'incontournable site français cnrtl.fr, soit le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales, je l'utilise souvent. Plusieurs dictionnaires en ligne aussi, dont le petit dictionnaire des mots rares et anciens de Didier Méral. C'est un petit bijou, ça.
C'est bien de le dire, de le mentionner.
Oui, tout à fait. Alors, on commence avec fleureter. FLEURETER.
Pour un flirt avec toi.
Oui, bien, vous allez voir, on n'est pas loin de ça. Ouais. Séduire, faire la cour, compter fleurettes. C'est de là que ça vient. Il aurait d'ailleurs, et vous le dites à juste titre, donné naissance au verbe anglais flirter.
OK, c'est un anglicisme, donc.
C'est de là que ça vient,
flirter.
C'est plutôt l'inverse. C'est un francisme pour les anglophones. Parce que ça a d'abord été fleureter. Les Anglais l'ont adopté pour en faire flirter.
OK, mais nous, on utilise flirter aujourd'hui plus
oui.
que fleureter.
Non, je suis d'accord.
Ouais.
On est dans les mots oubliés ici. Il ne faut pas oublier.
Merci du rappel.
Au 16e siècle, ce verbe voulait plutôt dire compter des balivernes, hein, des propos sans intérêt,
sans vérité. Pour rien dire.
Sans vérité, mais tu sais, quand on compte fleurettes, des fois, c'est un peu ça aussi,
ouais.
malheureusement. Alors,
faut démêler le vrai
si
du faux.
Voilà, les beaux parleurs qu'on dit.
Autre verbe, c'est presque gênant, se conjouir.
Oui,
il ne
faut pas avoir l'esprit trop mal tourné. Ça
non,
voulait dire
pas mon cas.
Se réjouir avec quelqu'un de quelque chose d'agréable qui lui est arrivé. C'est une forme qui remonte à un passé très lointain. On parle du 10e siècle ici.
Je me conjouis pour toi.
Oui, c'est exact. On semble de voir la tête de la personne aujourd'hui. Donc, ça remonte au 10e siècle avec le verbe « conjaudir » qui signifiait « recevoir avec enthousiasme ». Et au 17e apparaît le verbe « conjoir » pour dire « se réjouir avec d'autres personnes »,« conjoir devenu »,« se conjouir ». Paperasser.
On en a des paperasses, hein?
On doit ce verbe-là, qui remonte au 16e siècle, à l'écrivain Rabelais, qui nous a donné, entre autres, Gargantua et Pantagruel. C'est au sens de remuer, feuilleter, compulser des papiers. Pas grand monde qui aime ça, paperasser, on s'entend. Au 17e, on l'emploie aussi au sens de faire des écritures inutiles.
Ah bon?
Oui.
Gargoter, maintenant.
Gargoter, un autre verbe du 16e siècle qui veut dire bouillonner en parlant d'un liquide. Lui-même issu d'un nom encore plus ancien du 12e siècle, qui est gargate pour désigner la gorge. D'ailleurs, au 16e, on dit que gargoter, c'est bouillonner en faisant un bruit de gosier. C'est un râle, un bruit de gorge, là. C'est pas très appétissant.
Non.
Après le 16e siècle, de nombreux sens se sont développés. Il y a manger ou boire de manière malpropre, faire de la mauvaise cuisine, ce qui a engendré le nom gargote. Vous avez déjà entendu ça, une gargote? Un restaurant bon marché qui sert des plats de mauvaise qualité. Mais on l'a un peu réhabilité, gargote, au sens de boui-boui, de petits restos.
Oui.
Ça, c'est dans
qui paye
c'est
pas
plus
de mine,
récent, ça.
Qui paye pas de mine, mais où on mange bien. Hein?
Exact.
Alors,
il y avait un resto qui s'appelait La Gargote dans le Vieux-Montréal, d'ailleurs.
Donc, le sens péjoratif n'existe
plus
aujourd'hui.
Maintenant. On disait aussi gargoter pour faire quelque chose négligemment, sans soin, dans un passé lointain. Et on termine cette série de verbes avec « accroire ». À croire, précédé de faire ou de laisser à croire. En vieux français du 12e, l'on disait faire à craire. C'est tout à fait
pour
ça.
Vrai?
Pour vrai. A-C-R-E-I-R-E. Faire à craire. Pour dire qu'on faisait.
En roulant les R.
En roulant les R. Pour dire qu'on faisait croire quelque chose qui n'était pas vrai. Mais au Québec, c'est toujours bien vivant, cette forme-là. On dit aussi se faire des à croire.
Oui.
Pour dire qu'on se raconte des histoires à nous-mêmes. Pourtant, la racine latine à l'origine d'accroire voulait plutôt dire le contraire, parce que le verbe accrédérer en latin veut dire en croire quelqu'un ou ajouter foi à. Donc, c'est comme si on avait adopté l'inverse.
C'est drôle.
La racine latine, oui, c'est drôle.
Faire à craire.
Faire à craire.
Alors, André, vous continuez avec des noms, des interjections également.
Oui. Bien, notre saperlipopette,
la
première interjection. Je pense que la dernière fois que j'ai entendu, ou plutôt que j'ai lu ça, c'était dans un album de Tintin, c'était Tournesol qui s'exclamait « saperlipopette ». Au 18e, on disait « sacrelotte
».« Sacrelotte ».
Au 19e, « sacerlotte »,« saperlotte »,« saprelotte », qui sont devenus « saperlipopette », mais aussi « sacrebleu »,« sapristi ».
Ah, dans Tintin aussi, on a des « sacrebleu ».
On a des « sapristi », entre autres. Je pense qu'on a tous notre façon de modifier les interjections, hein, genre.
Ouais.
On aurait des exemples qu'on ne serait pas très décent de mentionner en ondes, là, mais je pense qu'on les a tous en tête. Une autre interjection, pardon, fi. Pas comme dans Wi-Fi, le fi, tout court, fi. Une interjection apparue au 12e pour exprimer le dédain
au 12e ou le siècle?
Dégoût. Oui, au 12e siècle. Pour le dédain ou le dégoût.
Fi!
Fi! Avec un petit point d'exclamation. Au 19e, l'expression « faire fi » voit le jour pour dire qu'on ignore quelque chose, mais encore là avec une connotation de mépris ou de dédain.
Ah bon?
Oui.
Aujourd'hui, on peut l'utiliser sans mépris, sans dédain.
Sans mépris, sans dédain. On fait fi de quelque chose, mais c'est quand même rare maintenant. C'est un peu vieillot comme forme.
Mais c'est une belle expression, je trouve.
Oui.
Il ne faut pas y faire fi.
Non, il ne faut pas faire fi de l'expression. On poursuit avec des noms en commençant par « sobriquet », synonyme de « surnom ».
Avez-vous un surnom, vous,
André? Ah, je ne vous le dirai pas. Ça remonte à l'élémentaire.
Dédé?
Ça ne me tente pas d'en parler.
OK. Une autre fois, peut-être.
Rentrez dans mon jardin secret. À l'origine, au 14e siècle, le sobriquet désignait un petit coup sous le menton. Et au 15e, le sens a évolué vers quelque chose de plus symbolique pour signifier une raillerie ou une moquerie. Un petit coup au sens figuré, quoi. Et au 16e siècle, le sens actuel de surnom est apparu. Parmi les exemples de sobriquet dans l'histoire, on remonte loin, au Moyen Âge, Berthe au grand pied.
Ah, pauvre Berthe!
Handicapant. L'épouse du roi Pépin le Bref, la mère de Charlemagne, le personnage grandiose de l'époque. Le petit caporal pour Napoléon Bonaparte, effectivement, il mesurait 5 pieds et 2.
C'est pas ton grand.
Il faut dire que les hommes à l'époque, les femmes aussi, étaient plutôt petits.
Petite.
Oui. Et Governator, plus récemment, en parlant d'Arnold Schwarzenegger, le Governator, à l'époque où il était gouverneur de la Californie.
Et il y en aurait tout plein aussi.
On pourrait
faire une chronique là-dessus.
Absolument.
Mathieu, vous vérifiez quelque chose sur votre cellulaire en faisant une drôle de moue?
En fait, j'avais déjà entendu dire que Napoléon était petit, mais après plusieurs vérifications, il mesurait ma taille, 1m68.
OK, ça veut dire combien, 100 pieds?
Ça représente 1m80 aujourd'hui.
Okay.
En pied. Attendez, là.
Mais 5 pieds 2, selon ce que moi j'avais lu, en pied. Peut-être qu'il y a des controverses sur la grandeur de Napoléon. Toujours est-il, pendant que Mathieu vérifie, on continue au 13e siècle, bougette, B-O-U-G-E-T-T-E, qui désignait une sorte de bourse suspendue à la ceinture et qui a donné naissance au terme budget. Mais budget a d'abord été adopté en anglais, budget.
Ah oui.
Et les Français l'ont repris pour dire budget. Bièvre.
Et non lièvre.
Utilisé au 12e siècle pour parler du castor et qui a donné le mot anglais beaver.
Ah, il y a beaucoup de mots français qui ont donné des noms.
Oui, c'est surprenant.
En anglais.
Absolument. La gambe avec un G, soit l'ancien nom de la jambe. On disait la gambe. Savez-vous dans quel terme ce mot est encore utilisé de nos jours? C'est un instrument de musique.
Oui, la gambarde. Ça se peut-tu?
Non. C'est pas ça que j'avais en tête. Ah. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à vérifier là, mais je pensais plutôt à la viole de gambe.
Ah oui, je pense que c'est probablement plus logique.
Les orchestres de musique ancienne l'utilisent encore, d'ailleurs. C'est un instrument à cordes qui est similaire au violoncelle qui se tient lui aussi entre les jambes ou entre les gambes.
Parce que la guimbarde est un instrument qui utilise une lamelle actionnée par le doigt comme élément. Donc,
on disait la bombarde.
Il n'y a pas de jambe là. La bombarde, c'est comme la guimbarde?
La guimbarde.
Non? Ah oui, OK. Bon. Et après, la gambe, gémonie.
Les gémonies, vouées aux gémonies, traînées aux gémonies.
Pas les gémonies, L, apostrophe, H.
Avec un G, tout simplement. Pour dire qu'on livre quelqu'un au mépris public. Dans la Rome antique, le mot désignait l'escalier sur lequel on exposait les corps des condamnés qui avaient été exécutés dans la prison. L'escalier en question fait d'ailleurs partie des ruines romaines qu'on peut encore voir aujourd'hui.
Ah oui?
L'escalier d'hégémonie, je l'ai vu l'an dernier.
Est-ce que vous avez apprécié?
C'est un escalier.
Oui. Bon.
Mais quand on connaît l'histoire derrière, ça a quelque chose de lugubre.
Oui, j'imagine.
Ouais.
C'est pas très tendre,
la Rome antique. C'est assez cruel comme régime, ça.
Barbare.
Barbare, voilà. C'est le bon mot. Accointance. Pour parler de relations avec d'autres personnes ou avec un milieu déterminé, c'est surtout utilisé de cette façon péjorative, puis au pluriel. On peut dire de quelqu'un, par exemple, qui a des accointances avec le milieu du crime organisé, ou le monde interlope, comme disait Claude Poirier. Le mot nous vient d'un verbe du vieux français, accointier, qui voulait dire faire connaissance. Puis on termine avec deux adjectifs. D'abord, abscon, avec un S à la fin, qui signifie que quelque chose est difficile à comprendre. Par exemple, on peut dire d'un langage qu'il est abscon.
Pas accessible ou en tout cas plutôt...
Hermétique.
Ouais.
L'origine du mot remonte au 14e siècle. C'était alors un terme médical. On parlait d'une absconsion pour nommer un ulcère caché ou latent. Et l'adjectif abscon à proprement parler, lui, est apparu au 16e siècle pour parler au sens figuré de quelque chose de caché, comme une information cachée, par exemple.
Puis le dernier mot de votre chronique.
Oui, apocryphe, issu du latin apocryphus, qui lui aussi, comme abscon d'ailleurs, veut dire caché ou secret. Apocryphe a deux significations qui sont très proches l'une de l'autre, soit d'une part que l'Église ne tient pas pour canonique en parlant des évangiles apocryphes, par exemple l'Évangile selon saint Thomas, ou il y a saint Jacques aussi, donc d'autres apôtres qui ont fait des évangiles, ou de façon plus générale, au-delà du religieux, dont l'authenticité est douteuse ou niée. Et là, le dictionnaire donne l'exemple d'une lettre apocryphe de Napoléon.
Ah, mais ça termine bien. Napoléon, en plus, justement. Mathieu avait des informations.
En fait, je suis allé sur napoléon.org, le site d'histoire de la Fondation de Napoléon, et on en conclut que la taille n'était pas inférieure à 1,68 m. Je vous passe les détails parce qu'il y a eu des mesures françaises et des mesures anglaises.
Ah.
Alors, on lisait 5 pieds 2, mais dans des mesures françaises, ça donne 1,68 m.
Bon. Voilà.
On n'en sait pas plus.
Ça en est,
Ben merci pour cette belle chronique. On s'est amusé en saperlipopette.
Ah oui,
à bientôt, André.